La communauté Écotable rencontre.
Chères auditrices et auditeurs du podcast Sur le grill d'Écotable, pour ce début d'année 2024, j'ai laissé le micro une semaine sur deux à la communauté Écotable, l'association qui travaille main dans la main avec la société Écotable pour que la restauration durable devienne une réalité. L'association organise notamment des rencontres engagées à Paris, Marseille et Lyon à destination des professionnels de la restauration. Cette hors-série intitulée « Rencontres » vous fait vivre ces moments d'échanges passionnants et stimulants. Amis restaurateurs, amis restauratrices, à écouter sans modération.
Nous sommes la communauté Écotable, l'association qui a pour mission de faire progresser l'alimentation durable en s'appuyant sur un réseau de professionnels engagés. Je suis Lorraine Petit, co-secrétaire générale de l'association et journaliste culinaire. Dans cet épisode, nous allons partir à la conquête du zéro déchet. Psst, les témoignages que vous allez entendre au fil de votre écoute ont été enregistrés en septembre 2022. Lors de nos rencontres organisées à Paris, Marseille et Lyon, nous avons échangé sur la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration. Même si le geste de tri sélectif a plutôt été bien intégré par les Françaises et les Français, les biodéchets et les restes alimentaires sont encore trop peu valorisés et occupent la moitié du poids de nos ordures ménagères. Plutôt que d'être enfouis ou brûlés, ils pourraient retourner à la terre ou être valorisés dans nos assiettes. Certains fruits et légumes jugés comme non calibrés ou hors normes ne quittent même pas le champ. Pourtant, l'inflation que nous subissons au quotidien depuis plus d'un an doit nous faire reconsidérer notre manière de consommer et envisager la sobriété sur la consommation de nos ressources. Maîtriser ces déchets, c'est aussi repenser les contenants de la vente à emporter, qui s'est largement développée depuis la crise du Covid. Recycler, c'est bien, mais ne rien jeter, c'est mieux. Alors comment se passer du jetable lorsqu'on fait de la vente à emporter ? Comment limiter le gaspillage à tous les étages pour combattre l'inflation ? Quelles sont les solutions pour valoriser ces biodéchets ? À Lyon, Éric Petrotto a créé la fabuleuse cantine. Une cantine gastronomique, sociale et engagée qui propose une cuisine créative face au gaspillage alimentaire.
Et on est parti, nous, plutôt de vouloir créer un lieu de vie où on a du sens. Et quand tu commences à t'intéresser au gaspillage alimentaire, tu peux trouver très vite une sorte de quête ou de sens à trouver parce que c'est infernal et affolant. Donc plus de 33% de la production mondiale et en France, c'est 20 tonnes chaque minute. Donc tu te dis, bon, c'est 20 tonnes, on va en faire un constat inévitable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir apporter un peu de créativité pour essayer d'égratigner ce chiffre ? Et c'est là où on s'est concentré, nous, sur une qualité nutritive indiscutable, donc du bio ou de l'agriculture raisonnée, des produits qui sont des fruits et des légumes, c'est ça qu'on rachète, d'essayer de fédérer des acteurs qui ont des problématiques que tu évoquais. Donc ça peut être une problématique où effectivement ils sont abîmés, mais t'as une problématique aussi de surproduction, t'as des problématiques pendant la logistique, ça rencontre pas son marché, quoi qu'il en soit. Et t'as beau essayer de faire rentrer la décarrée dans des ronds, si ça rencontre pas son marché, ça le rencontre pas. Donc en fait, c'est assez marrant parce que tu crées un projet où tu viens inverser la chaîne de valeur. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tu processes presque comme tu pourrais étudier plein de formes d'entreprises. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de chaîne de valeur ou de supply chain. Et donc, en gros, restaurant traditionnel, bah t'as quelqu'un qui sait bien cuisiner. Ça, c'est quand même important. Et puis, il commence sur papier à se dire, je vais préparer tout ça. Et puis ensuite, il source. Et en sourçant, il essaye le plus possible d'être attentif maintenant à être dans une approche locavore. C'est déjà très bien par rapport à avant. Et puis il achète, et puis il cuisine, et puis il a sa carte, et puis il déroule, et puis il y a un prix. Généralement, c'est relativement cher, surtout si t'es très attentif à ce que la qualité nutritive soit au rendez-vous. Ben là, en gros, t'inverses tout. Donc t'es un lundi, et puis il y a 3 tonnes de courges qui arrivent, quoi. Et là, t'as intérêt à avoir des créatifs, et puis quelques outils qui te permettent d'absorber. T'essaies de transformer le plus joliment, et il faut que ce soit goûtu, tu vends pas de la solidarité, tu vends quelque chose qui a une valeur quand même. Et donc on appelle ça, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on appelle ça de l'économie bleue, c'est vraiment partir du déchet et en y mettant de la connaissance, de l'art, du design, etc., on peut recréer de la valeur sociale, environnementale et économique. Et donc, en fait, je co-fais ça, voilà, avec une belle équipe. Le projet attire, ça c'est chouette, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des projets qui ont du sens, on attire des talents. Et donc, on transforme des invendus tous les jours.
Si revaloriser chaque jour les invendus dans les restaurants est un modèle vertueux sur lequel nous pouvons prendre exemple, à Marseille, la mairie prend elle aussi les devants pour relocaliser la production et valoriser les déchets. On écoute Aïcha Sif, élue adjointe au maire de Marseille en charge de l'agriculture urbaine, l'alimentation durable et la protection des terres agricoles.
La question de l'urbanisme dans la nouvelle majorité est d'une importance capitale, c'est-à-dire qu'on a décidé... au moment de la campagne, à travers des ateliers de programmation, hein, c'est pas, on l'a pas décidé il y a 12 mois quand on a été élu, on l'a décidé un petit peu avant avec les concitoyens, que Marseille allait donner un urbanisme autre, c'est-à-dire à la fois des habitations, des logements, mais aussi bah, des maraîchers en pied d'immeuble, de la végétalisation, mais aussi de la production et aussi des animaux. C'est-à-dire de l'élevage qu'on a déjà commencé, sur lequel on a déjà commencé à travailler. Donc ça veut dire qu'on travaille avec le PLUI. Vous avez dû entendre parler de cet outil du foncier, hein, qui est le plan local d'urbanisme, où on leur propose qu'un certain nombre de parcelles seront consacrées agricoles, vont passer à la zone agricole pour nourrir, pour donner de l'alimentation aux Marseillais et Marseillaises. Donc là, on a fait la proposition en juin dernier de 20 hectares sur une parcelle qui se trouve sur le 11e, le 12e et le 15e arrondissement de Marseille. Il faut savoir qu'une parcelle, elle fait à peu près 5 hectares. On en a 7 hectares aussi jusqu'à 9. Et actuellement, les nouveaux maraîchers, les nouveaux agriculteurs arrivent à travailler sur 3 hectares. Et ça leur donne des revenus, mais vraiment de la production rentable. Donc, pourquoi mettre de la production et la relocaliser? Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Relocaliser, ça appelle aussi à cette question de l'économie qui est locale et qui est circulaire, comme ça, où effectivement, on a sur la question de produire des légumes, on a après des gens qui les transforment et ensuite de ce qui donne et qui produisent aussi des déchets. Qu'est-ce que nous allons faire sur la question des déchets? Eh bien, il faut savoir que c'est par la loi Egalim, hein, et la loi aussi sur le code de l'environnement qui nous oblige, j'allais dire, à valoriser à partir de 2023 exactement tous les biodéchets qui se trouvent sur le territoire. Mais actuellement, nous n'avons pas encore tous les outils. On a la loi, mais on n'a pas les outils. En revanche, on a qui ? On a tous les acteurs. C'est-à-dire que tous les faiseurs d'avenir, eh bien, qui sont prêts à travailler pour cette question de recyclage et de biodéchets. Qu'est-ce qu'ils viennent nous demander ? C'est du foncier, la plupart du temps. C'est où mettre, où aller affréter, voilà. C'est, sachant que sur le foncier, les alchimistes, en tout cas, avec lesquels nous travaillons actuellement, il n'y a pas une grande emprise au sol, je cherche pas beaucoup, c'est 2000 mètres carrés. Donc on peut installer effectivement des acteurs et des outils, des professionnels qui commencent à se mettre à valoriser les déchets. Il faut savoir que l'année dernière, la métropole a commencé à le faire sur tous les biodéchets alimentaires du Crous. Et donc elle va étendre la récolte dans toute la ville de Marseille à partir de 2023. Donc, moi, je pense que ça va se régler, ce problème, assez rapidement. Il faut de la patience pour que les outils se mettent en place.
À Marseille, toujours, Noémie Lebosset, chef et propriétaire du restaurant Les Eaux de Mars, a pris les choses en main en mettant en place sa propre solution de gestion des biodéchets.
Bah nous, quand on a démarré l'aventure des Eaux de Mars il y a 2 ans, on s'était beaucoup posé la question de savoir ce qu'on allait faire de notre compost. Et j'ai la chance d'avoir une petite parcelle à la Belle de Mai, j'ai un petit jardin partagé. Et donc j'ai commencé à y entreposer mon compost pour le restaurant. on voulait que ça soit une solution, disons, à court terme. On voulait pas que ça dure trop longtemps, mais ça fait déjà 2 ans que ça dure parce qu'on n'a pas trouvé les solutions. On s'était intéressé à l'association Les Alchimistes, mais en fait, ça nous a posé problème de payer, de faire la démarche de payer pour recycler nos déchets, sachant que on paye déjà plus cher les légumes parce qu'ils sont locaux et bio, et en plus, il faudrait payer leurs épluchures. Donc, plus on a de biodéchets et plus on paye. Donc nous, la démarche, enfin déjà financièrement, on pouvait pas se permettre, et puis on a opté du coup pour le jardin, mais à terme, on aimerait trouver une autre solution, ouais, parce que c'est compliqué, surtout qu'on travaille beaucoup la semaine, donc on récolte notre compost d'un côté, on le met dans la camionnette de d'Arthur, mon associé, en attendant, et de pouvoir les jeter dans le jardin à la fin de la semaine, quoi. Donc c'est une organisation et une logistique qui est pas pratique du tout, qui est un peu contraignante au quotidien. Ça nous arrive de craquer dans l'autre sens des fois, j'avoue.
Signe payé pour composter ouvre le débat. À Lyon, Marc Ferrieux, fondateur de l'entreprise de collecte de biodéchets WeCompost, alerte sur le manque d'aide donnée aux restaurants et épiceries pour composter, bien que la loi AGEC les y oblige.
Il y a quelques petites aides de la Chambre des métiers et de l'artisanat sur des accompagnements, donc la CMA Rhône qui accompagne certaines structures qui veulent tester, expérimenter, essayer de se trier à la source des biodéchets. Donc par exemple, on a mis en place ces derniers mois une collecte mutualisée avec pas mal de commerces pour essayer de faire baisser les coûts justement de la collecte, et entre différents restaurants, commerces alimentaires, etc. C'était sur Oulin et sur Villeurbanne, Gratte-Ciel. Ça a été très efficace puisque finalement tous les participants à cette expérimentation ont de fait continué ensuite ce tri et cette valorisation de leurs biodéchets. Donc au début, c'était financé par la CMA et même un petit peu la métropole de Lyon, et depuis que c'est payant et qu'ils doivent nous payer notre service directement, ils ont tous continué. Donc ça veut dire que il y a quelquefois simplement un blocage, je pense, psychologique dès qu'on est commerçant et que on voit qu'il y a une dépense supplémentaire. On y réfléchit à 12 fois avant de mettre en place les choses, mais une fois qu'on a vu que finalement c'était peut-être pas mal et ça permettait de sauver ces déchets de l'incinérateur, à ce moment-là, il y a des possibilités à ce que les commerçants fassent le continue cette action de tri de leurs déchets alimentaires. Je voulais revenir un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure sur l'implication des collectivités locales pour les particuliers notamment. Ils ont mis en place, notamment la métropole de Lyon, des bornes à compost un peu partout dans le 7e, maintenant à Villeurbanne et un peu dans les autres quartiers. Des commerces aujourd'hui peuvent profiter de ces bornes à compost à un certain volume, bien sûr, pour déposer leurs déchets alimentaires dans ces bornes à compost. C'est accepté, toléré jusqu'à un certain volume, mais c'est aussi positif parce que ça permet de montrer que on est dans le geste justement du tri et de la valorisation. Et ils vont prendre cette habitude et progressivement après passer aussi par d'autres systèmes pour collecter leurs déchets alimentaires. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui à Lyon et en métropole lyonnaise de valoriser les déchets alimentaires, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Jusqu'à aujourd'hui, on avait à peu près 100% de nos restaurateurs partenaires qui étaient convaincus par le bien fondé du tri à la source des déchets alimentaires pour une valorisation en compost. Et maintenant, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on arrive à voir venir vers nous ou aller vers des restaurateurs qui ne sont pas du tout convaincus de l'intérêt de ce tri à la source et de cette valorisation, et qui vont devoir le faire par obligation. Donc ça change pas mal le discours, il faut l'avouer. Au départ, c'est on est tous sympathiques, on est entre nous, on s'aime bien et on a envie de sauver la planète. Maintenant, il faut rentrer dans des préoccupations tout simplement financières, économiques. Voilà, les restaurants qu'on a collectés depuis 2019, ils se posaient pas cette question dans ce sens-là. C'était une obligation pour eux. Psychologiquement, personnellement, il fallait absolument sauver les déchets des incinérateurs, et tous les moyens étaient bons. Donc, beaucoup ont mis en place des petits composteurs dans leur cour ou chez eux, ou trouvent trouver des solutions pour donner à manger à des animaux, des poules ou autres. Après, quand ils n'avaient pas d'autres solutions, il fallait éventuellement faire appel à une structure qui allait collecter ces déchets alimentaires.
Alors que la gestion des déchets organiques rentre peu à peu dans les mœurs des restaurants, grâce à l'apparition de solutions clés en main, ces derniers peinent à trouver des alternatives pratiques à la production de déchets liés à la vente à emporter. Chez Saisono, Aïloane Dupuis propose un système de consigne depuis l'ouverture de son restaurant en 2020.
Alors, chez Saisono, on a ouvert en 2020 avec le système de consigne dès le démarrage. Parce que c'était au cœur du projet et qu'on se voyait pas avoir un resto super engagé et des emballages jetables. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'investir dans un stock de boîtes en verre qui sont les premières que vous voyez sur la table à gauche là. Donc c'est des boîtes en verre arc avec un petit couvercle en plastique. Il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel nous on est. Donc on est un petit resto indépendant, on a 30 couverts en salle. La vente à emporter, ça représente 10-15% de nos ventes, mais c'est pas énorme. On va avoir peut-être 10-15 commandes à emporter par jour. Donc, c'est quand même un volume très limité. C'est pour ça que l'investissement dans un stock de consignes en propre, ça nous paraissait le plus adéquat, parce qu'au final, on a investi dans un premier stock de 500 boîtes. On a la chance d'avoir un sous-sol où on peut stocker. Ça représente pas un flux énorme à gérer pour nous en termes de lavage en journée. Donc il y a plein de paramètres qui nous sont propres, qui ont fait qu'on a fait ce choix-là. En fait, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais qu'il faut bien comprendre les spécificités de chacun et choisir la bonne solution. Je pense qu'il y a une solution pour chacun, mais ça va pas être la même pour tout le monde. Donc le retour d'expérience, il est super bon. Enfin, nous, on est très contents d'avoir mis ça en place dès le début. Et on a, si on commence peut-être par le sujet de l'expérience client, on a eu dès le début des très bons retours clients. Donc, quand on a démarré l'activité, on présentait l'activité de Saisono et en fait, ça a coulé un petit peu de source pour nos clients qu'on ait mis en place ce modèle-là. Et je pense même qu'on aurait peut-être perdu des clients si on avait des emballages jetables. Donc, on en est... à ce point-là de la sensibilité écologique de nos clients qui a fait que ça a été super bien accepté, même encouragé et plébiscité par notre clientèle. Donc, très peu de freins finalement à l'acceptation. Mais pour moi, grâce à deux éléments clés, c'est que on l'a mis en place dès le démarrage. Donc, il n'y a pas eu de switch à faire auprès de nos clients fidèles entre le jetable et le réutilisable. Et que le cœur du concept de Saisono, c'est l'engagement. Donc, quand ils viennent ici, c'est cohérent. Donc, je pense que ça, c'est deux éléments clés qui ont fait que l'expérience client, elle était facile, entre guillemets, pour accepter ça. Encore une fois, c'est propre à notre histoire. Et je peux tout à fait entendre que pour d'autres restaurants qui ont pas un engagement aussi visible et qui ont déjà du jetable dans l'établissement, ce soit pas aussi facile.
Si la consigne émerge dans la vente à emporter, elle n'est pas toujours facile à mettre en place concrètement. Sophie Transeau est consultante auprès d'enseignes de la restauration. Elle accompagne ces enseignes dans leur transition du jetable au réutilisable et nous donne trois solutions à envisager.
Aujourd'hui, on est vraiment au début. La loi AGEC qui arrive le 1er janvier 2023, vous avez dû en entendre parler. Elle vous concerne pas nécessairement parce que vous êtes déjà en vaisselle réutilisable pour le surplace, mais ça fait bouger énormément de gros acteurs du secteur, notamment ceux avec qui je travaille, qui se bougent pour lancer des pilotes, voire déployer et mettre de la vaisselle réutilisable partout dans la restauration rapide. Aujourd'hui, on a McDo, qui va être la première enseigne de restauration rapide en France, à être prête pour la loi AGEC du 1er janvier 2023. Et ils vont lancer une campagne très probablement pour bien sûr communiquer sur le fait que eux sont prêts et ont respecté la loi AGEC versus les autres. Donc, on s'attend vraiment à un changement de mentalité de la part des clients qui vont considérer ça comme normal de manger dans du réutilisable. En ce qui concerne la vente à emporter, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal qui encadre cela, sauf pour les grandes enseignes qui font plus de 20 millions de chiffre d'affaires et qui mettent plus de 10 000 unités d'emballage par an qui, eux, à partir de 2023, en fonction de leur chiffre d'affaires, vont devoir avoir un pourcentage minimum d'emballage réemployé, que ce soit des emballages primaires, secondaires ou tertiaires. Vous allez voir pop-up des pilotes dans des grandes enseignes de restauration bien connues, que ce soit sur le surplace, mais aussi sur la vente à emporter. J'ai travaillé ces derniers mois avec la première enseigne de restauration qui est très connue, qui va lancer un pilote en décembre. Je ne peux pas citer le nom, mais il y a des choses qui bougent aussi pour la vente à emporter, alors qu'il n'y a pas de cadre légal qui les oblige, dans les gros. Qu'est-ce qui est possible pour un resto indep? En fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on pouvait présenter ça sous forme de d'un arbre avec trois solutions. Comme l'a mentionné Ailohan, en fait, si vous avez une clientèle qui est proche de votre point de vente et qui est très fidèle, en fait, le plus simple pour vous, en fait, c'est de faire en sorte que les contenants soient nettoyés dehors. Du coup, faire en sorte que les clients ramènent leurs propres contenants. Donc là, c'est tout bénef parce que vous avez besoin de rien faire et de pas les stocker, pas les nettoyer. La deuxième solution, ce qu'a choisi Ailohan, c'est de faire ce que j'appelle la consigne à la mano, mais qui peut être adaptée à votre besoin, qui est encaissement-décaissement. C'est-à-dire que c'est une consigne, on appelle ça vraiment une consigne parce que c'est du prepaid, c'est-à-dire que votre client va payer plus pour prendre en réutilisable dans votre restaurant. Vous, vous allez devoir encaisser ces 2, 5, à vous de choisir le montant de garantie. Vous allez les encaisser et quand il revient, vous allez les décaisser, lui rendre. Et enfin, j'en viens à la troisième solution pour un retour des contenants. C'est ce que j'appelle une solution technologique en post-paid. Aujourd'hui, sur le marché, il y a trois gros acteurs qui s'appellent Pixo, Gringo ou Vital, qui proposent aux restos indep, mais aussi aux grandes enseignes, une solution de consignation des contenants qu'on appelle plus trop consigne parce qu'en fait, c'est du post-paid. C'est-à-dire que votre client n'a pas besoin de payer plus lorsqu'il prend en réutilisable. Il est juste débité si jamais il ne le rend pas dans les dans le délai imparti. Et tout ça se fait via une application. Donc, les trois acteurs ont une application B2C, conso, qui et le restaurateur a une application pro qui permet d'appairer des contenants. L'appairage, en fait, c'est ce moment, au moment du paiement, où le restaurateur va sortir son application pro, va scanner le contenant, le QR code du contenant. Demain, il y aura peut-être des puces RFID, mais aujourd'hui, on est encore au stade du QR code. Il scanne le QR code sur le contenant. Ensuite, il scanne le QR code que le client lui montre via l'application B2C et le contenant est appairé. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu besoin de débourser et le client doit ramener son contenant dans un délai imparti qui dépend en fonction de l'opérateur de consigne. Sinon, il est débité. Et là, l'opérateur de consigne récupère du coup le montant de garantie et vous le redonne si vous êtes propriétaire de vos contenants et si vous êtes en location, c'est-à-dire que vous louez le contenant à l'opérateur de consigne, il le garde étant donné que c'est sa propriété.
Consigne, compost, revalorisation en cuisine des invendus du jour, des solutions existent donc pour limiter la production de nos déchets en cuisine, largement applicables, à condition d'avoir une bonne dose de volonté. À Paris, Sophie Transo, Ailohan Dupuis et Nicolas Duquesnois, fondateurs et chefs de Fast, nous partagent leur expérience en allant plus loin sur le réutilisable que les contenants consignés.
Alors aujourd'hui, l'offre de couverts réutilisables est assez limitée. En gros, ça va dépendre de si vous prenez du verre ou du plastique. Les couverts en inox restent le plus simple. Le fait de ne pas donner de couverts reste encore le plus simple aussi parce qu'on espère que la personne en ait soit dans son sac, soit à son bureau. Sinon, il y a des kits de couverts en plastique. Le seul enjeu des couverts en plastique, c'est comment vous voulez, si vous optez pour le système de consigne avec traçabilité, bah, comment vous voulez mettre un QR code sur un couvert. Donc, faudrait mettre un QR code sur un set. Comment s'assurer que les trois couverts soient dedans? C'est un peu compliqué. Donc, du coup, le sujet couvert aujourd'hui est un peu mis de côté. Moi, ce que j'ai vu dans les enseignes qui lancent des pilotes et qui veulent franchir le pas, c'est couvert en inox. Surtout que c'est le type d'enseignes qui n'ont pas des entrecôtes. Du coup, même s'ils prennent du plastique, il n'y a pas l'enjeu des rayures dont je vous parlais tout à l'heure avec des couverts en inox.
Nous, on a un peu résolu le problème par la stratégie de l'évitement. Donc, quand un client vient, on lui demande « Est-ce que vous avez vraiment besoin de couverts ?» Donc déjà, on lui en propose pas, on lui en met pas. C'est lui qui doit nous demander. Et au final, ça représente une très petite partie de notre clientèle. La plupart des personnes qui viennent au déjeuner ou pour le dîner, bah, ils mangent chez eux ou au bureau. Très peu mangent à l'extérieur, même si on n'est pas très loin du canal. Auquel cas, ils vont prendre un kebab et donc ça se mange à la main. Ce qui fait que les personnes qui ont besoin de couverts, en fait, c'est vraiment pas énorme. Dans notre clientèle, encore une fois, c'est notre expérience. Et donc, on n'a pas trop ce souci. On a des couverts en bambou de dépannage. Et on va les donner à un client sur 20, quoi, quand ils en ont vraiment besoin. Et on insiste. Est-ce que vous en avez vraiment besoin?
Et toi, Nicolas?
Avant d'ouvrir face, j'avais une boutique de traiteurs, mais pas d'événementiel sur place, une boutique. Et je me suis aperçu, en fait, tous les clients prennent des couverts, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc, à un moment donné, c'est pareil, on est dans une démarche, il faut la réimposer. On a acheté des couverts plus quali qu'on vendait. Tout simplement, alors ouais, ça a été mal perçu, hein, ça les fait chier dès qu'on vend. Mais là, on s'est aperçu que il y a 10% de la clientèle en fait qui avait besoin de couverts et qui prenait des couverts. Voilà, quand on donne, tout le monde prend. Et puis à un moment donné, quand on impose, on sélectionne et ceux qui en ont vraiment besoin prennent et on économise 90% à côté.
Nous, on a essayé de pousser un petit peu le bouchon ces derniers temps avec la serviette réutilisable. Donc, c'est pareil. Hein. Pour le coup, ça a un coût très faible. Donc, les restaurateurs ont peut-être moins l'urgence de passer au réutilisable, mais c'était vraiment dans une démarche écologique. On a fait un partenariat avec les tendances d'Emma et elle nous a fourni 500 serviettes en coton lavable et on a fait une opération avec eux pour sensibiliser nos clients à l'usage de la serviette réutilisable. Donc, le but, c'était pas d'en fournir 10 à la suite au même client, mais de lui donner la serviette en lui disant « ça, c'est ta serviette et la prochaine fois que tu viens chez Sezono, je veux que tu la ramènes et qu'elle soit toujours dans ton sac pour quand tu fais tes pique-niques, quand tu prends tes commandes à emporter, voire quand tu vas dans d'autres restaurants, la poser sur la table et dire « moi, j'ai pas besoin de cette serviette, vous pouvez la reprendre ». Ça a super bien marché, les clients étaient fans de l'idée. C'est un usage qui est encore très très minoritaire, enfin qui n'existe pas. Mais je pense que c'est avec ces opérations qui sortent un petit peu de l'ordinaire de sensibilisation. Moi, je considère qu'on a plus fait de la sensibilisation que un vrai impact carbone. Hein. Je considère pas qu'on est en train de changer le monde avec ça. Mais pour le coup, ça a vraiment. Il y a eu un truc qui s'est passé dans l'esprit de nos clients avec cette opération et voilà, c'est une marque qui est super. Si, je sais qu'ils cherchent pas mal de pilotes, donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec eux.
Au fil des échanges, nos invités nous ont aussi fait part d'initiatives inspirantes, parfois au-delà des frontières, comme en Slovénie. C'est ce que nous présente Clément Flint, chef du restaurant solaire Le Présage.
En Slovénie, ils ont un système de traitement des déchets. Donc, ils collectent dans plusieurs restaurants tous les déchets organiques et ils ont des usines qui le transforment en biogaz. Donc, ils ont juste collectivisé ce déchet pour en faire une ressource. Nous, en France, on le fait pas, je crois, à ma connaissance, ou très peu. Et il existe pourtant aussi des systèmes de micro-méthanisation, plutôt on devrait dire pico-méthanisation, c'est-à-dire de la méthanisation à très très petite échelle. Donc celle qu'on a utilisée pour le restaurant en 2017, quand on était associatif et qu'on pouvait se permettre des libertés sur le plan de la législation, on va dire. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la législation ne permet pas de faire de la pico-méthanisation, puisque la législation parle aujourd'hui que de méthanisation à grande échelle pour les fermes de canines de vache ou des choses très importantes comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, on fait pas de méthanisation parce que on ne peut pas légalement. Ce qui m'amène aussi à me tourner vers les élus et on devrait tous prendre ce sujet à bras le corps, mais à essayer de faire changer cette législation pour qu'on puisse apporter ces solutions sans être hors la loi et ou alors prendre ce sujet à bras le corps et faire mettre en place des systèmes de collecte des biodéchets, faire des appels d'offres pour avoir des usines de traitement de ces déchets, des usines à biogaz, et qu'on puisse en faire quelque chose, quoi.
Enfin, Marc Ferrieux va plus loin en partageant une initiative qui risque de faire débat.
Aux États-Unis, il y a un État ou deux qui ont validé l'humusation, c'est-à-dire le compostage des êtres humains. Donc, il faudra faire attention quand on compostera les grands-mères de bien trier les dentiers ou autres pacemakers. Mais par contre, c'est des réflexions qui sont intéressantes. On peut valoriser et composter pas uniquement des déchets alimentaires, mais d'autres matières.
Merci d'avoir écouté Rencontre, un podcast de la communauté écotable que je me délecte d'animer. Réalisation, montage et mixage par Justine Nérini. Le générique est d'Antoine Deboutrey. Restaurateurs, restauratrices, producteurs et productrices, élus, citoyens et citoyennes, vous souhaitez faire avancer l'alimentation durable avec nous ? Rejoignez le mouvement. Écrivez-nous sur contact@communautéécotable.fr et adhérez à l'association sur Hello Asso. À bientôt.